Chapitre 16. Ayant achevé le but principal de l'épître, consistant à traiter le relâchement moral, le désordre d'assemblée et l'enseignement erroné, l'apôtre termine par quelques exhortations pratiques quant aux collectes de dons et par des informations sur ses déplacements et sur ceux d'autres serviteurs du Seigneur. Versets 1 à 4. Les collectes. Citation de l'Écriture. Or, pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, comme j'en ai ordonné aux assemblées de la Galatie, ainsi faites-vous aussi. Que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez lui, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin que, lorsque je serai arrivé, il ne se fasse pas alors de collecte. Et quand je serai là, ceux que vous approuverez, je les enverrai avec des lettres pour porter votre libéralité à Jérusalem, et s'il convient que j'y aille moi-même, ils iront avec moi. » Fin de citation. Dans les quatre premiers versets, l'apôtre parle de la collecte pour les saints. On peut à juste titre avoir des collectes pour répondre aux besoins de serviteurs doués du Seigneur, de qui nous recevons un soutien spirituel, mais il arrive qu'il soit également nécessaire d'avoir des collectes pour les pauvres du troupeau. Le besoin spécial des saints à Jérusalem, à l'époque, était un cas aigu. Un grand nombre de saints y avaient souffert la persécution, et il y avait probablement beaucoup de veuves et d'orphelins. L'Épître aux Hébreux nous apprend qu'ils avaient souffert l'enlèvement de leurs biens. L'Évangile était sorti de Jérusalem vers les nations, et comme les convertis des nations avaient reçu des biens spirituels, il était juste qu'ils donnent de leurs biens temporels. Cette collecte devait avoir lieu régulièrement, chacun accumulant chez lui selon que Dieu l'avait fait prospérer. Comme c'était leur propre collecte, ils étaient libres de nommer leurs propres administrateurs. L'apôtre, qui était bien connu des saints à Jérusalem, voulait les recommander avec des lettres de sa part. S'il était approprié que l'apôtre aille à Jérusalem, alors les délégués de Corinthe l'accompagneraient. Versets 5 à 9. Citation de l'Écriture. Or, je me rendrai auprès de vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverse la Macédoine. Et peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous me fassiez la conduite où que ce soit que j'aille. Car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, car j'espère que je demeurerai avec vous quelque temps, si le Seigneur le permet. Mais je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. » Fin de citation. En rapport avec la collecte, l'apôtre avait parlé de visiter l'assemblée de Corinthe. Il reparle de cette visite envisagée et leur dit que pour le présent il la reportait. Avec beaucoup de grâce et de sagesse, il ne leur en dit pas la raison. En 2 Corinthiens 2, ayant vu par leur repentance l'effet de sa première lettre, il est libre de leur dire en détail pourquoi il ne pouvait pas venir chez eux. Il leur dit néanmoins la raison de son séjour prolongé à Éphèse, la ville d'où il écrit. Une grande porte lui était ouverte là. Elle était efficace, c'est-à-dire riche en bénédictions, et il y avait beaucoup d'adversaires. Si le Seigneur ouvre une porte, le diable va sûrement exciter beaucoup d'adversaires. Les déplacements de l'apôtre n'étaient pas gouvernés par les adversaires, mais par le Seigneur qui gardait la porte ouverte. Versets 10 et 11. Citation de l'Écriture. Or, si Timothée vient, ayez soin qu'il soit sans crainte au milieu de vous, car il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise, mais faites-lui la conduite en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. » Fin de citation. Il se pouvait néanmoins que Timothée les visite, et c'est pourquoi l'apôtre le recommande d'une manière spécialement adaptée aux circonstances. Timothée était d'un caractère timide évident. Il devait donc faire attention à agir de manière à ce qu'il soit sans crainte avec eux. En outre, il était jeune, et il ne devait pas le mépriser pour cette raison. Pouvait-il y avoir une recommandation plus forte que le fait que non seulement Timothée s'employait à l'œuvre du Seigneur, mais qu'il le faisait dans le même esprit que l'apôtre? Il était quelqu'un qui agissait selon l'exhortation déjà donnée à l'assemblée à Corinthe, « Soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. » Verset 12. Citation de l'Écriture. Or, pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup prié d'aller auprès de vous avec les frères, mais ce n'a pas été du tout sa volonté d'y aller maintenant, mais il ira quand il trouvera l'occasion favorable. » Fin de citation. Bien que l'apôtre ne fût pas libre à ce moment-là de visiter Corinthe, il ne s'ensuivait pas que ce fût à tort qu'un autre serviteur du Seigneur visitât cette assemblée. Évidemment, l'apôtre jugeait qu'Apollos pouvait être utile à l'assemblée, et il l'avait donc beaucoup prié d'aller auprès d'eux. Cependant, Apollos ne le voulait pas. Aussi l'apôtre, après avoir exprimé son désir, a laissé le serviteur du Seigneur libre d'agir devant son maître. Versets 13 et 14. Citation de l'Écriture. Veillez, tenez ferme dans la foi. Soyez homme, affermissez-vous. Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Fin de citation. Les saints de Corinthe ne devaient pas dépendre des serviteurs du Seigneur. Par conséquent, que les serviteurs viennent ou s'en abstiennent, les saints de Corinthe sont exhortés en premier à être vigilants. Un adversaire toujours actif exige une vigilance constante. Deuxièmement, ils avaient à tenir ferme dans la foi. On ne peut faire face aux intrusions des faux enseignements qu'en tenant ferme tout le domaine de la vérité. Troisièmement, veiller contre l'adversaire et tenir ferme dans la foi exige qu'on se comporte en homme. Hélas, beaucoup à Corinthe avaient agi d'une manière charnelle, prouvant que spirituellement ils n'étaient que des petits-enfants, alors qu'ils auraient dû être des adultes ou hommes faits. Quatrièmement, se comporter en homme demande d'être fort et de s'affermir. Autrement dit, selon les paroles de l'apôtre dans une autre épître, il devait se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. 2 Timothée 2, verset 1. Cinquièmement, la force spirituelle se manifeste dans l'amour. L'apôtre ajoute donc que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour. Hélas, combien de choses faites en rapport avec l'assemblée de Dieu peuvent être tout à fait justes, et pourtant avec un mobile entièrement erroné, parce que l'amour fait défaut. Dans le cas de ces saints à Corinthe, ils avaient été largement caractérisés par la négligence au lieu de la vigilance. Au lieu de tenir ferme dans la foi, certains faisaient des spéculations, allant même jusqu'à nier une vérité aussi fondamentale que la résurrection. Au lieu de se comporter en homme, ils étaient tombés dans les voies du monde. La faiblesse les avait marqués plutôt que la force, et l'égoïsme au lieu de l'amour. Il est bon pour nous tous de prendre ces exhortations à cœur. Versets 15 à 18. Citation de l'Écriture. Or, je vous exhorte, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, qu'elle est les prémices de l'Achaïe, et qu'ils se sont voués au service des saints, à vous soumettre, vous aussi, à de tels hommes, et à quiconque coopère à l'œuvre et travaille. Or, je me réjouis de la venue de Stéphanas et de Fortuna et d'Achaïque, parce qu'ils ont suppléé à ce qui a manqué de votre part, car ils ont récréé mon esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de tels hommes. » Fin de citation. L'exhortation qui suit est importante et fait référence à une catégorie de serviteurs très heureusement décrite comme s'étant voués au service des saints. Ce n'étaient pas nécessairement des hommes ayant des dons de prédicateurs ou d'enseignants. De tels dons pour l'assemblée entière auraient pu leur donner une place éminente devant les autres. Mais ils représentent une catégorie précieuse de serviteurs qui se consacrent localement et de manière régulière au service du peuple de Dieu. Il y a le danger que de tels serviteurs soient négligés au profit de ceux dont les activités sont davantage publiques. L'exhortation est donc de reconnaître ces serviteurs et de leur être soumis, comme à quiconque coopère à l'œuvre et travaille. L'apôtre reconnaît lui-même ceux qui avaient suppléé à ce qui manquait de la part de l'assemblée à Corinthe. Les paroles qui suivent sembleraient indiquer que ce n'était pas une aide temporelle, mais un rafraîchissement spirituel. La seconde épître le confirme, car elle nous apprend que l'apôtre refusait toute aide temporelle de cette assemblée. 2 Corinthiens 11, versets 9 et 10. Versets 19 à 24. Citation de l'Écriture. Les assemblées de l'Asie vous saluent. Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous salue affectueusement dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation de la propre main de moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous, dans le Christ Jésus. Amen. Fin de citation. Les assemblées de la province romaine d'Asie envoient leurs salutations. Aquilas et Priscilla, que l'apôtre avait rencontrés initialement à Corinthe, envoient des salutations spéciales, avec l'assemblée qui se réunissait dans leur maison. Ils avaient à se saluer les uns les autres avec le baiser qui exprime l'amour fraternel. Mais que cette coutume de saluer soit dans la sainteté. L'apôtre ajoute sa salutation de sa propre main, ce qui était le gage certain qu'il avait dicté la lettre. 2 Thessaloniciens 3, verset 17. La salutation de la propre main de moi, Paul, ce qui est le signe dans chaque lettre. Ainsi j'écris. Il ajoute un mot d'avertissement solennel qu'on ne trouve que dans cette épître. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, maranatha. Le sens de ces derniers mots, nous dit-on, est le suivant. Qu'il soit maudit, notre Seigneur vient. Cela indique que la venue du Seigneur pourra révéler le fait solennel que certains sont au milieu du peuple du Seigneur sans jamais avoir été vraiment touchés par son amour et qu'ils n'ont donc pas eu d'amour pour lui, prouvant ainsi qu'ils ne sont pas du Seigneur. L'apôtre désire que la grâce du Seigneur soit avec ses saints et conclut en leur assurant que son amour est avec eux tous. Ce n'était cependant pas un simple amour humain, mais un amour dans le Christ Jésus. Aussi fidèlement qu'il ait pu leur écrire, l'amour en était le mobile. Il leur adressait donc sa propre exhortation, au verset 14, « Que toute chose parmi vous se fasse dans l'amour ».